La ville est pleine de bruit, pleine de cris. La ville est pleine de flics et de trafic, d'ordures et de brûlures, d'essence et d'indécence. Mais la ville est pleine de poésie aussi. Il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à regarder. Poésie in the City, le vendredi après-midi. On the air, sur Radio Galère. La poésie se crée, s'écrit, se crie dans les rues, les bars, les arbres et sur le sable. Elle surgit sur les murs recouverts de graphes, de dessins, de tags. Elle resplendit dans l'eau, ruisselant dans les caniveaux et rebondit sur les trottoirs en mode aléatoire. Sans trajectoire définie, sans ordre préétabli, car tous les chemins, oui, tous les chemins mènent à la poésie. Et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers la mer, les collines et le ciel, vers la lumière du soleil de Marseille. La ville est pleine de bruit, pleine de cris. La ville est pleine de flics et de trafic, d'ordures et de brûlures, d'essence et d'indécence. Mais la ville est pleine de poésie aussi. Il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à regarder. Poésie in the City, le vendredi après-midi. On the air, sur Radio Galère. Bon après-midi, vous écoutez donc Poésie in the City sur Radio Galère 88.4 FM à Marseille et les environs, sur internet radiogalère.org et également en DAB+, la radio numérique terrestre. C'est Julie Cat au micro de la radio pour l'émission consacrée à la poésie dans la ville. Et aujourd'hui nous allons partir loin, loin de Marseille en voyage autour de l'Himalaya avec Henri Perrier-Gustin. Bonjour Henri, ravi de t'accueillir dans les locaux de la radio pour une deuxième fois.
Bonjour Julie.
Bon, le micro marche, tout va bien, tu m'entends? Super,
t'entends très bien.
Nous sommes en direct, il est 16h03, vendredi 6 décembre. Donc Henri Perrier-Gustin, je disais, tu es déjà venu dans les locaux de la radio, c'était en janvier 2023, il y a donc presque 2 ans. Hein, puisque nous sommes.
Tout à fait.
À l'occasion, tu avais lu quelques extraits d'un recueil artisanal fabriqué par les éditions Drosera et intitulé 36 choses à faire avant de mourir. Donc, c'était il y a 2 ans. Et est-ce que tu te rappelles depuis combien de temps on se connaît, toi et moi?
Écoute, je dirais que ça fait bien 3 ans maintenant que je te connais. On s'était croisés, je pense, à une nuit de la poésie organisée par Claudine Bessière.
Ok, d'accord. Je ne m'en rappelais plus. J'aime bien qu'à chaque fois que j'ai un ou une invitée, nous rappeler le premier moment de où on avait partagé de la poésie ensemble. En général, voilà, ces rencontres se font comme ça. Donc, c'était, je pense, les Nuitées poétiques de Claudine Bessière, que Claudine Bessière a organisé en novembre.
Il
y a 3-4 ans, parce que ça fait un moment qu'elle n'en a plus fait.
Et puis, on s'est aussi connus d'abord et avant tout par le scriptorium,
oui,
au travers des réunions de l'association, de ce collectif d'auteurs sur Marseille, Dominique Sorante.
Nous avons d'ailleurs organisé ensemble des événements pour le printemps de la poésie dans le cadre de Haut Ma Parole avec le scriptorium Donc, on se connaît un petit peu. Henri Perrier-Gustin, tu écris depuis très longtemps. Premier poème écrit vers l'âge de 8 ans, tu m'as raconté ça récemment, et puis tu as beaucoup voyagé aussi, et notamment vécu longtemps à l'étranger. Tu vis à Marseille depuis une dizaine d'années. Ton précédent recueil de poésie, Chant Sud, publié aux éditions Alcyone l'année dernière, est d'ailleurs dédié à la ville de Marseille, c'est ça ?
Absolument.
Mais aujourd'hui, on quitte Marseille, puisque tu viens nous parler de ton dernier livre, La Badiane et la Soie, récit d'une boucle de 8 mois sur les traces des anciennes pistes caravanières de la route de la Soie, au nord et au sud de l'Himalaya. C'est un voyage que tu as effectué il y a 30 ans, en 1995, avec ta femme Florence. Au cours de ce voyage de 8 mois, je le rappelle, vous tenez des carnets, vous prenez des photos, vous faites des croquis, vous envoyez des lettres à votre famille et vos amis. Et puis de retour en France, fin 95, à l'automne 95, vous rangez tout ça. Et puis en 2022, tu rouvres les carnets. Donc c'est ce que tu vas nous raconter au cours de l'émission. Déjà, ce voyage, pourquoi et comment, il y a 30 ans ? Qu'est-ce qui se passe pour, qu'est-ce qui vous envoie, ta femme et toi, parcourir les routes de la soie?
Très bien, merci beaucoup Julie pour cette présentation. Et d'abord, je voudrais te remercier de ton accueil et de cette invitation dans ton émission Poésie in the City, qui est un moment important dans la vie poétique de Marseille. Je t'en remercie.
Merci.
Je profite aussi de ce moment pour saluer la mémoire de notre ami Daniel Birbaum, qui nous a quittés. C'était un ami cher et il nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà, donc un mot, une pensée pour lui. Alors l'écriture, elle m'a accompagné depuis, effectivement, bon, l'enfance c'était un peu anecdotique, mais j'ai vraiment commencé à écrire vers l'âge de 16-17 ans. J'ai eu la chance de connaître un poète important sur la place lyonnaise, enfin de le connaître, de lui avoir envoyé des textes, et il m'a encouragé à écrire et il m'a donné les adresses de revues de poésie assez tôt. Mm-hmm. Et donc j'ai eu la possibilité d'envoyer des textes que j'avais écrits sur Lyon, ville où j'ai grandi, à des revues comme le Journal des Poètes à Bruxelles, ou Arpa, ou Coup de Soleil, différentes revues qui ont publié mes textes dans les années 90, donc j'avais tout juste 20-21 ans. Mm-hmm. Ce projet, en fait, je vivais au Japon en 1994, depuis 4 ans.
Ouais.
Et j'avais depuis longtemps l'envie de faire un grand voyage, puisque j'avais vécu 4 ans en Asie, j'avais fait une partie de mes études à Hong Kong, mm-hmm. fait beaucoup de voyages, notamment en Chine, en Asie du Sud-Est, j'étais déjà allé au Tibet, et j'avais ce rêve de remonter le trajet de Marco Polo, en tout cas le trajet aller qu'il avait fait, ouais. pour aller jusqu'au palais de l'empereur de Chine, enfin qui était un empereur mongol d'ailleurs, hein, à mm-hmm. l'époque, c'était Kubilai Khan.
Et donc à l'époque, Marco Polo, il partait d'où ? Il arrivait où, juste pour rappeler ?
Marco Polo est parti de Venise,
oui.
et il est allé jusqu'à Xi'an, qui était Xi'an, hein, la capitale de Chan à l'époque, la capitale de l'empire chinois.
Ouais.
Il y est resté très longtemps, hein, il y est resté plusieurs décennies. Il a eu un rôle important, il a été même ambassadeur pour le compte de l'empereur de Chine. Et c'est un parcours, en fait, le parcours aller a été dans ce sens, et il est revenu par ce que j'appellerais la route de la soie sud, mm-hmm. c'est-à-dire par les routes maritimes.
Mm-hmm.
Donc je voulais, moi, vivant au Japon, je voulais aller de Pékin jusqu'à Rome par la route.
D'accord.
Et en fait, étant étudiant en 1990 à Hong Kong, il y a eu, vous vous souvenez, la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït, puis ensuite, successivement, l'Afghanistan et tous les conflits dans les pays en ce temps, avec la fermeture de la route historique de la soie.
Donc une partie du parcours impraticable.
Voilà. Donc je ne pouvais plus faire ce projet. Et du coup, comme j'avais vraiment envie d'aller sur cette route, parce que ça faisait, en 1994, ça faisait 3 ans que je préparais ce voyage à base de lectures, d'ouvrages historiques, notamment un livre important qui nous a beaucoup influencés, mm-hmm. qui est le livre d'une historienne qui s'appelle Luce Boulnois et que je salue. Alors, elle n'est plus de ce monde, mais c'est un livre très important qui s'appelle La Route de la Soie, qui est mentionnée dans la bibliographie de mon livre. Donc, l'idée que j'ai eue alors, c'est de faire une boucle autour de l'Himalaya.
Ouais.
Et justement, en découvrant qu'il n'y avait pas une, mais de nombreuses routes de la soie, eh bien, de parcourir des tronçons des deux principales routes de la soie, c'est-à-dire la route nord, qui relie la Chine à Rome par le nord de l'Himalaya, et la route maritime, qui longe le Vietnam et l'Inde.
Okay.
Et de faire donc une grande boucle autour de l'Himalaya, et ce qui a donné lieu à cet itinéraire d'un voyage de 9 mois, en partant de Tokyo, mais c'est parce que nous y vivions, mais surtout donc, longeant le Vietnam. Donc on a commencé par les routes sud, on a traversé l'Himalaya, on est revenu par les routes nord. Ce voyage, il s'est fait en 1994, fin 94, à l'issue de 4 années passées au Japon.
Et vous partez effectivement de Tokyo, en fait. Hein, c'est le point de départ même du livre. Tokyo, et après, les grandes, on peut citer les grandes étapes du parcours. Le Vietnam, l'Inde, le Népal, le Tibet, la Chine, la Mongolie, le Pakistan, avec une espèce de boucle. Hein, tu fais une espèce d'epsilon, en fait. C'est pas ça, non ?
Oui, alors c'est pas tout à fait une ellipse, mais parce qu'en fait, on est allé en Mongolie, on a fait un aller-retour. On est allé de Pékin à Ulan Bator, on est revenu à Pékin et on est parti plein ouest.
Oui.
Donc effectivement, on a traversé 7 pays. C'est plus de 20 000 km de transport, essentiellement terrestre. On a essayé de prendre le moins possible l'avion. Alors à l'époque, en 95, c'était la mode des tours du monde, hein, les billets tours du monde. On allait un peu partout, on faisait le tour du monde en avion, on faisait des sauts de puce. On ne s'intéressait pas trop au bilan carbone, on ne se préoccupait pas trop de ces sujets-là. À cette époque, il y avait peu de gens qui faisaient des parcours terrestres. Notre projet, c'était de tout faire à pied. Bon, le temps nous a manqué, on avait 9 mois. Et l'idée, c'était d'aller sur les traces de grands voyageurs de l'histoire comme Chang Kien. Alors Chang Kien, si vous lisez le Boule Noire, vous verrez son histoire. C'était il y a plus de 2000 ans, c'était un ambassadeur de l'empereur de Chine, au second siècle avant Jésus-Christ, qui allait quasiment jusqu'en Europe. Ensuite, bon, Marco Polo, on en a parlé, mais aussi Alexandra David-Nel, hein, qui est allée au Tibet, une Française qui nous avait beaucoup aussi inspiré pendant nos années au Japon. Et un auteur français peu connu qui s'appelle Henri Delacoste, qui a fait des voyages en Mongolie et qui m'avait pas mal aussi inspiré. Donc ça, c'était un peu c'est un voyage qu'on a longtemps rêvé, longtemps imaginé. Aussi, je me passionne pour la saison du printemps, donc j'ai essayé d'organiser le circuit pour arriver dans les bons moments, notamment au moment de l'éclosion du printemps, parce que c'est une période assez magnifique, et éviter les fortes chaleurs, notamment en Inde. On n'a pas pu toujours l'éviter. Et notamment quand on a traversé la route de la soie en Chine, c'était dans des chaleurs absolument suffocantes.
Donc vous tenez des carnets de voyage, Florence et toi, pendant tout ce trajet. Donc en 2022, tu ressors les carnets et aujourd'hui, tu publies donc ce très beau livre de 300 pages coécrit avec ta femme qui alterne récits de vos péripéties, croquis, poèmes, images photographiques. Un livre que j'ai trouvé très coloré, aussi bien dans l'écriture que dans les choix graphiques. Et puis, on va écouter tout au long de cette émission des extraits de ce voyage à travers les grandes étapes que tu as traversées, que vous avez traversées, Florence et toi. J'ai envie là de lancer, pour nous mettre dans l'ambiance, un petit Ravi Shankar. Je t'ai proposé avant l'émission de m'envoyer un extrait ou quelques extraits musicaux qui pour toi étaient liés à ce voyage. Donc tu m'as proposé un extrait de l'album Morning Raga de Ravi Shankar. Je passe un petit extrait de 30 secondes, 1 minute, et puis après on part avec toi sur les routes autour de l'Himalaya. Thank you. Henri Perrier-Gustin, donc départ de Tokyo, fin décembre 1994. Vous prenez l'avion pour le Vietnam. Qu'est-ce qu'on va trouver au Vietnam ?
Eh bien, on va trouver la badiane.
La badiane.
Puisque
ah oui,
le titre du livre.
Que j'ai oublié de poser.
Alors, il a fallu. On s'est un peu gratté la tête pour trouver un titre. C'était longtemps Les carnets d'Asie, La route de la soie. Et puis, j'ai cherché un titre qui fonctionnait bien. Et ça a été. Donc, le titre, c'est La badiane et la soie. La soie, parce que c'est la route de la soie. Et également, ça symbolise aussi la Chine et aussi le textile, les vêtements. Ça symbolise aussi, dans le livre, vous verrez, il y a une iconographie et ça symbolise les passages écrits par ma femme Florence, puisque c'est un voyage à deux.
Ouais, ouais.
C'est une, à la fois une histoire d'amour. Ce livre, c'est un voyage intérieur, mais aussi une rencontre avec les peuples, un hommage à l'Asie, et aussi une plongée dans le cours de l'histoire et aussi dans l'histoire du commerce, puisqu'on a fait tous les deux des études de commerce. Et je travaillais, moi, depuis déjà 4 ans pour l'entreprise Pernod Ricard au Japon. Et j'ai imaginé en fait la route de la badiane. Et donc on en reparlera dans l'histoire, mais à un moment, sur le marché de Canton, on a acheté 1 kilo de badiane qu'on a transporté, que j'ai transporté dans mon sac à dos tout au long du voyage. Et c'est la deuxième partie du titre, La badiane et la soie. Et donc c'est plutôt les parties que j'ai écrites, moi.
D'accord. Et donc, est-ce qu'il y en a au Vietnam de la badiane ?
Absolument, oui. Elle est cultivée, en fait, elle est cultivée au Vietnam et dans le sud de la Chine.
Ok.
Et d'accord. C'était une des raisons aussi du commerce maritime, hein, puisque la soie venait en partie par la route nord, mais sur la route de la soie, il y avait d'autres produits qui étaient vendus dans les deux sens, et notamment... la badiane qui circulait plutôt sur la route sud maritime.
D'accord.
Alors on part effectivement de Tokyo, où on a rassemblé toutes nos affaires après 4 ans de vie dans une caisse en bois de quelques mètres cubes. Ça fait aussi réfléchir. Et on est parti pour la grande aventure de ce projet qu'on avait rêvé depuis un petit moment. Donc ça donne lieu... Alors dans le livre, il y a une alternance de notes, de carnets, un petit peu...
Il y a de la poésie, il y a des lettres.
Voilà, il y a aussi des lettres, il y a des poèmes. Il y a des poèmes en vers et des poèmes en prose. Donc le livre commence par un poème. Pour bagages, des cartes, des carnets, du papier à dessin, des vêtements chauds pour la montagne, du temps pour vivre, lire et écrire. Nouveau voyage, toujours plus loin. Ce n'est plus une quête, ce sont des retrouvailles. Voyage des mots nouveaux, des plantes et des pierres. Voyage des distances, des routes illuminées, des chemins de poussière. Voyage des auberges aux paillasses généreuses, aux assiettes de la joie de vivre. Voyage de vision, d'effort. Voyage du temps qui s'arrête et des heures calmes. Voyage sans domicile, de tous les domiciles, sans ville, de toutes les villes. En fait, c'était...
Là, tu es encore à Paris, Charles de Gaulle. Hein. Dans le bouquin, là, ce poème, il est dans la partie Paris, Charles
oui,
de Gaulle.
Oui, je l'ai écrit dans l'avion. Et pourquoi...
Départ pour Tokyo, on n'est pas encore sur la route de la soie.
Non, on est dans l'avion. Et pourquoi je dis ce sont des retrouvailles ? Parce qu'après 4 ans à Tokyo, je retournais sur les terres et les hauts plateaux, du Tibet notamment, où j'avais déjà passé pas mal de temps en 90.
Ok. Donc, avion Paris-Tokyo. À Tokyo, tu veux nous en parler ?
Oh, très brièvement, parce qu'on a bouclé nos valises, on a vendu nos affaires, déménagé. Ce que je peux dire de Tokyo, c'est que c'était un moment fort. Alors, je pourrais en parler... Mais le temps nous est compté. Alors, si, peut-être, c'est quand même une anecdote importante. On s'est mariés en France.
Oui, quelques semaines avant... Non, une semaine avant de partir, c'est ça ?
C'est ça, oui. On s'est mariés le 26 novembre, il y a 30 ans.
Avant de partir à Tokyo, donc.
Bah, je vais te lire, alors, du coup, un extrait de lettre. Hier, dans le temple Ryuzenji...
Oui, mais attends, l'anecdote, c'est que vous mariez à Paris. Non, pas à Paris, en France, je veux dire. Juste avant de partir. à Tokyo pour votre grand voyage. Et à Tokyo, vous vous remariez.
À Tokyo, on s'est mariés
dans un temple traditionnel.
Voilà, donc, on s'est mariés dans un temple japonais avec un ami japonais qui était moine zen. Et on a échangé trois fois les traditionnelles coupes de saké. Mmh. On avait revêtu à l'époque des kimonos traditionnels qui étaient ceux qu'ils avaient portés, lui et sa femme, à l'occasion de leur mariage. C'est un moment très émouvant. Il y a une photo de nous en kimono dans le livre.
Ouais. Et du coup, je te laisse lire le passage que tu voulais partager à ce sujet.
Hier, dans le temple Ryuzenji, notre ami moine zen, M. Magane, a célébré pour notre mariage une cérémonie religieuse bouddhiste. Voilà, ensuite le reste, je l'ai expliqué. Et nous ne réalisons pas que nous partons. Aujourd'hui, nous avons notre soirée d'adieu. La maison est en ordre. À pied d'œuvre depuis le lever du jour, nous organisons une vente de nos affaires. Nous déménageons le jour de Noël, une caisse de 7 mètres cubes pour le retour de 4 ans de vie. Nous ne réalisons pas que nous partons, je n'y pense pas. Découvrir de nouveaux horizons m'apporte toujours de la joie. Dans 10 jours, nous quitterons le Japon, laissant aux autres quelques regrets, gardons les bons souvenirs, les belles images. Nous sommes prêts pour la route, ce que nous laissons derrière nous, des amis, des lieux, quelques habitudes. Et là, nous partons au Vietnam. Vietnam.
En avion.
Alors, on prend l'avion vers le Vietnam et on a traversé le Vietnam pendant un peu plus d'un mois.
Et vous arrivez, oui, vous partez, vous prenez l'avion, vous arrivez à Ho Chi Minh Ville et après, vous continuez votre voyage.
C'est ça, on a remonté. En fait, à l'époque, on pouvait aller que à Ho Chi Minh Ville, depuis Tokyo en tout cas. Donc, on a atterri et on a remonté toute la route vers le nord, en bus et en train. Dans cette étape maritime de la route de la soie, terre, comme on l'a évoqué, de Ba Dian. Alors, peut-être quelques mots sur quelques passages sur le Vietnam.
Oui.
Saigon est un déferlement de motocyclettes, véritable guirlande sonore. Elles se déplacent en toutes directions, se croisent, s'évitent, signalent bruyamment leur passage pour le plaisir ou par principe. Les avenues sont un ahurissant tintamarre de klaxons, de bruits de moteurs auxquels se mêlent au hasard des situations les échanges de voix et les altercations. C'est un homme qu'on aperçoit inerte sur la chaussée, une main contre la tête, devant lui le camion qui l'a heurté. C'est un attroupement quand le phare de la mobylette d'une jeune femme a été brisé et la discussion s'envenime. C'est un autre, l'air furieux, qui ramasse son engin laissé au sol dans le tumulte du démarrage, au feu d'un grand carrefour. Et Florence écrit « La traversée de la ville nous étourdit. Des millions et des millions de motocyclettes tournent sans relâche, entourent les cyclopousses. Ils se fraient un chemin imperturbable, passent dans les grands ronds-points sans s'arrêter. Les gens ici vivent comme sur leur mobylette. Ils ne s'effleurent qu'à peine. Chacun vit sa vie comme il l'entend, dans la plus grande liberté. » Au Vietnam, tout passe par les sens. Par les yeux, mais aussi l'odorat et l'ouïe. Des images qui vous tournent la tête jusqu'à vous donner la nausée. Nous restons à Saigon. Nous nous lançons lentement, progressivement, dans le voyage. Notre arrivée dans le bruit incessant de Saigon est un choc. Nous n'avons pas de repères, encore sous l'influence du Japon. Il est aussi nécessaire de recréer à deux un espace, ses contraintes, ses règles aussi. Nous devons organiser notre temps, un rythme de vie, tenue des carnets, organisation des étapes suivantes, lectures nombreuses, visites, rencontres avec les habitants.
Donc, vous allez traverser plusieurs lieux au Vietnam. Donc là, on était à Saigon. Tu peux préciser peut-être à chaque fois que tu lis un passage, parce que dans le texte, c'est une alternance donc, de récits avec un titre à chaque fois qui désigne le lieu où a été écrit le...
Oui, il y a toujours un titre, il y a toujours une date.
Où ont été prises les notes, voilà.
Absolument.
Comme ça, on situe de manière imaginaire, même si on ne les connaît pas, ces villes.
Tout à fait. Donc là, on était à Saigon, c'était le 31 décembre 1994. Là, je vais lire un extrait de lettre. Saigon, le 7 janvier 1995. Saïgon est une grande fourmilière, comme toutes les mégalopoles. La circulation est infernale, bruyante, et le besoin d'un réseau de métro deviendra bientôt crucial, tout comme à Bangkok. Après 2 jours de repos, sans presque sortir de l'hôtel, nous nous sommes lancés à la rencontre de la ville. Et là, j'explique un petit peu le résumé du mois qui s'est passé, et un poème. Saïgon déjà familière, sonnerie lointaine des cloches d'église, jardin bordé de hauts arbres, terrasse ombragée des cafés, Servan, Ricard, Pernod et Orangina.
Justement, donc là, un poème, une lettre, un récit, c'est l'alternance que vous avez choisie d'écriture dans le livre. Les lettres, ce sont les lettres que vous écrivez à votre famille, à vos amis, et que donc tu récupères auprès de tes proches, c'est ça, vos carnets de route. Et la poésie, alors comment ça s'imbrique tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un poème qui va apparaître à un endroit? La plupart du texte, ce sont des notes, des récits, assez descriptifs. Et puis de temps en temps, il y a un poème qui surgit. Comment la poésie a surgi? Si tu as une explication à ça.
Oui, alors c'est venu assez naturellement. Hein. Ce sont des carnets de voyage. Donc à la base, on écrit plutôt en prose parce qu'on est dans une approche soit de récit, soit une approche documentaire. On voulait être journalistes tous les deux à l'époque. Hein, donc il y a pas mal de sujets d'actualité politique ou économique ou historique qu'on a documentés dans ce livre. Je pense que c'est aussi un des intérêts de l'ouvrage. Et ces passages-là sont narratifs. Ils vont rencontrer des rencontres. On a rencontré, par exemple, un déserteur irakien. Enfin, il y a toute une série de rencontres qu'on a fait en Inde ou ailleurs. On va décrire des moments du voyage, des impressions, des émotions. Mmh. Et puis, à l'époque, comme on l'a évoqué, j'écrivais déjà de la poésie en revue. Et donc, ça a été spontané. C'est-à-dire, dans les carnets, j'écris en vers ou en prose. Et j'ai essayé de garder cette alternance. Certains poèmes qui étaient en vers, je les ai remis en prose parce que ça restait une prose poétique et ça s'intégrait mieux dans le récit. Mais il y a toujours cette alternance. Et puis, on écrivait chacun de notre côté. Mm-hmm. On s'est aussi partagé les lieux, les villes, parce que c'est un vrai travail. On s'est vite rendu compte qu'écrire comme ça prenait beaucoup de temps. Donc, on s'est partagé les lieux. Mm-hmm. Et quand je me suis attelé à faire ce livre, j'ai commencé par taper mes carnets. Il y avait des centaines de pages. On n'a pas tout gardé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des pan entier du voyage qui n'avait pas été documenté. Et c'était un voyage à deux. C'est un...
Par tes propres notes.
Par
hein,
moi, oui. Oui, mmh. Parce qu'on s'était réparti certaines villes. Mmh. Par moment même, on devait rattraper en une journée, parfois une semaine ou 10 jours de voyage, parce qu'on n'était pas toujours en capacité d'écrire. Mmh. Et ça m'a paru être une évidence qu'il fallait retrouver les carnets de Florence et les intégrer.
Parce que ça complétait tes propres notes.
Tout à fait. Donc, j'ai cherché dans les cartons au grenier jusqu'à ce que je remette la main dessus. Et ça m'a pris aussi quelques mois de mon temps libre pour tout retaper à la main. Ensuite,
oui, j'imagine que c'était intégré. Tout manuscrit à l'époque. Il y avait pas, tout n'était pas dans un ordinateur sur disque dur ou un cloud dans l'espace.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, de retaper les deux carnets. Et ensuite, de les intégrer, essayer de trouver les bons passages, les bonnes associations. Mmh. Et également de garder... Alors, j'ai éliminé plus de la moitié des textes parce qu'il aurait fait plus de 500 pages.
Il fait déjà 300 pages. Et c'est...
Oui, ouais, il fait 300 pages.
C'est un très beau livre avec... Il y a aussi beaucoup de photos qui, du coup, permettent d'illustrer les passages écrits. Hein, parce que y a souvent... j'ai retrouvé dans toutes les photos une correspondance avec ce que vous aviez
tout à fait,
en
oui.
passage.
Ah, j'ai choisi, on avait plus de 2000 diapos, donc j'ai choisi des photos qui illustraient le livre. Mm-hmm. Et je voudrais aussi saluer la graphiste Catherine Verchère-Julia, qui m'a accompagnée dans la réalisation de ce livre, parce qu'elle a fait un vrai travail de mise en page. Et c'est vraiment un bel objet.
Oui, tout
c'est
à
plus
fait.
Qu'un...
Il y a très, très coloré,
de qualité, il y a beaucoup de couleurs,
beaucoup
il y a des
couleurs.
Cartes.
Chaque étape a une couleur qui lui est attribuée, qu'on retrouve après dans les titres, la charte graphique. Graphiquement, c'est un très bel objet.
C'est un bel ouvrage.
Chouette. Vous ne pouvez pas la voir là, à la radio.
Non, j'aurais bien aimé le montrer. Et elle a fait une carte pour chaque itinéraire en mettant des points. Alors, on a retrouvé une vieille carte du 19e siècle. On a eu du mal à positionner les points parce que les villes n'étaient pas forcément lisibles. Mais ça a été un vrai exercice et ça a pris plus de 6 mois à faire la maquette.
Et, ouais.
Et la couverture a été faite par un artiste avec qui je réalise des livres d'artistes. C'est Claude Ballaret, des éditions Drosera, avec son épouse. On a fait déjà plus de 4 livres d'artistes ensemble. Mm-hmm. Et ils ont eu la gentillesse de me faire la maquette de la Badiane et la Soie, qui est très belle. C'est un collage qui a été retravaillé aussi et positionné sur la carte avec la graphiste Julia Verscher.
Avec vos deux ombres, hein, c'est ça?
Alors oui, ce sont nos silhouettes. Ils avaient proposé de mettre des silhouettes, mais j'ai trouvé que c'était plus judicieux de mettre une photo de nous qui a été transformée en silhouette. Ouais. Voilà.
Donc, on revient au Vietnam. Est-ce que tu as d'autres lieux à nous faire découvrir dans ce pays? Ou est-ce qu'on part vers notre destination?
Il n'est pas facile de faire des choix et j'avais fait une sélection beaucoup trop longue pour illustrer le voyage. Il y a plus d'un mois et demi de récits au Vietnam et je voudrais proposer peut-être...
Parce que de Saïgon, vous passez dans la région
textes,
de Dalat.
Oui, on est allé à Dalat. Dalat, c'est les hauts plateaux. Mm-hmm. On a presque l'impression d'être en France parce que le climat est beaucoup plus proche. On retrouve des fruits. Donc je vais vous lire un passage qui se passe dans un marché. Dalat, 10 janvier 1995. L'animation discrète du marché. Sur le côté, les comptoirs s'alignent. Gargotes humides où l'on sert les soupes, l'alcool et les pâtes de soja. Le sol jonché des coquilles de la veille balayées à grands coups. Pas de clients encore. On s'affaire. On prépare. Les mototaxis encagoulés attendent les clients des campagnes. Des stands ambulants vendent du gasoil aux motards. Les vendeurs de thé réservent les meilleures places au centre de la grande halle. Les étals des marchands de légumes forment une maille inextricable de rouge et de vert. Lueurs imprécises parmi les ombres des étals. La ville se rend au marché dans une sourde rumeur, allées et venues des marchandises, des produits bigarrés, des hauts plateaux. Il règne encore un calme d'église, de rares discussions pour fixer un prix, molletonné dans la lumière basse du matin. Les marchandes âgées nous accueillent d'un regard méfiant. À demi intriguées, elles finissent par nous sourire. Nous ne connaissons pas un mot de leur langue, mais le sourire reste universel. Et un peu plus tard dans la journée, dans un restaurant, dans la salle aux tables vides, l'air passe de porte en porte, sur les murs des paysages ou des marques d'alcool. La serveuse a une veste en laine jaune canarie, avec des boutons ronds, noirs. Un nœud de tissu retient ses cheveux.
Je reviens sur... ce que tu viens de lire là, nous ne connaissons pas un mot de leur langue, mais le sourire reste universel. Oui, comment vous faites pour communiquer avec la population au quotidien? Alors, vous parlez quand même japonais déjà, en fait, après 4 ans au Japon.
Alors, oui,
peut-être
on parle
d'autres langues déjà.
Ça ne nous a pas trop aidé au Vietnam. Mm-hmm. Alors, au Vietnam, il reste un grand fond de francophonie.
Ok.
Pas autant qu'on aurait pu imaginer. Surtout les personnes âgées parlaient à l'époque français.
Ouais.
On était souvent surpris par la qualité du français des gens qu'on rencontrait. Bon, évidemment, l'histoire coloniale l'explique. Certains parlaient anglais, plutôt la nouvelle génération. Et on se débrouillait. On a l'habitude de beaucoup voyager, de se débrouiller. On parle pas mal de langues, ça nous aide. Mais celles qu'on parlait... puisque moi je parle 6 langues, mais bon, ça ne m'a pas forcément aidé, mais on se débrouille. Par exemple, à un moment, c'est une autre anecdote, on devait porter un cadeau à une famille vietnamienne qu'on a tant bien que mal retrouvé sur un marché de Saïgon. En fait, on les a attendus pendant des heures, puis on est reparti. Mm-hmm. Et ils nous ont retrouvés je ne sais comment. On était sur le bord de la route, en moto, on a vu des gens débarquer. C'était eux, ils nous ont donné rendez-vous le lendemain. Et le lendemain, on a passé 3 heures à manger avec eux sur le sol de leur petite boutique. À même le sol,
ouais.
C'était un festin incroyable.
Uh-huh.
On s'est émerveillé les papilles et on ne parlait pas un mot ensemble.
Ah,
mais
beau.
On a passé une après-midi avec ces gens, c'était merveilleux. On a communiqué en faisant des dessins.
Oui.
D'ailleurs, il y a une anecdote, je l'ai appelé l'enfant Toyota,
mm-hmm.
puisque l'enfant avait 4 ans, et je lui ai demandé de dessiner un bonhomme, ce qu'il a fait, il m'a dessiné. Et puis après, il m'a dessiné une voiture, et il a écrit dessous Toyota.
Ah, oui.
Il avait à peine 4 ans, d'où la force des marques japonaises.
Mm, tout à fait. Alors, on continue.
Peut-être je te propose un dernier extrait avant
okay.
de quitter le Vietnam,
okay.
écrit par Florence.
Ça va.
Avant de partir sur l'Inde. Donc là, on est le 20 janvier 1995, c'est page 43 pour 3 Julie. Nous sommes entre Hue et Hanoï.
Mmh. Dans le bus.
Dans le bus, oui. 700 km en 19 heures sans interruption. C'est juste pour illustrer, y en aura d'autres, mais on a fait beaucoup, beaucoup de routes. La principale voie du pays est assez étroite, mal entretenue. Nous bondissons sur nos sièges à chaque tour de roue. Heureusement, la route n'est pas trop fréquentée et comme partout, les riverains l'utilisent à d'autres fins que la circulation des véhicules. C'était quand même la route principale du Vietnam. Ainsi font-ils sécher au sol le riz, le café, les écorces de noix de coco. Ils y réparent leurs mobilettes. Les chars tirés par des buffles croisent les camions en planches bleues. Les bus se débordent de marchandises, les voyageurs s'accrochent aux fenêtres, aux portières. Nous partons sous la lune, les arbres se découpent. Du sud au nord, c'est un pays ininterrompu de rizières. Dans les fermes en torchis et aux toits de chaume, des tas de foin sont dressés autour des piquets fichés dans la terre. Dès le lever du soleil, pieds nus dans la boue, les paysans repiquent inlassablement le riz tendre, formant des rectangles d'un vert lumineux. Voilà, je m'arrête là.
Alors, avant qu'on quitte le Vietnam et du coup qu'on parte pour la prochaine étape qui est l'Inde, je voulais partager ce que j'ai bien aimé donc à la fin de ce chapitre. Ce sont les acrostiches. Alors, vous êtes amusé à le faire avec le Vietnam. Peut-être après, vous étiez pris dans d'autres préoccupations parce que vous n'avez fait que pour ce pays. Mais j'en partage 2-3. Écrit sur la route de la baie d'Along. Vietnam, voyage à l'infini, ses étendues tourmentées et noires des anamites montagnes. Vietnam, votives images entassées dans les temples, nuées sur l'autel de marbre. Vietnam, Vénus irisée étendue, tuirant sur le narguilé avide de mirage. Et en dernier, Vietnam. Vite, impudemment, extirpons aux touristes naïfs son argent mal acquis. Très, très sympa. J'ai beaucoup aimé ces petites acrostiches. J'ai presque regretté de ne pas en trouver après. Mais qu'importe, on continue le voyage. Alors, un petit peu de musique avant d'aller en Inde. On retrouve donc Ravi Shankar. Quelques secondes. Aïe, j'ai un trou. Je fais n'importe quoi là avec la... Avec la bande son, pardon. Voilà. Ravi Shankar. Alors, vous êtes à Bangkok le 29 janvier 1995, dans l'attente d'un billet d'avion pour l'Inde.
Oui, on a dû faire une escale à Bangkok. On connaissait déjà très bien, mais bon, on a apprécié de retrouver certains endroits. Et après quelques jours d'attente, on a pu avoir des billets pour Delhi. Alors, la surprise, c'est qu'on a atterri à Delhi, on n'avait pas d'hôtel. Et il était 2 heures du matin.
Et il ne fallait pas... remplir un formulaire, non
Oui,
parce
alors...
qu'il y a toujours des formulaires à remplir. Je croyais qu'il fallait absolument avoir un hôtel
long comme le bras.
Pour pouvoir prendre l'avion. Mmh,
tout à
bon,
fait.
Vous arrivez, vous n'avez pas d'hôtel.
Et on est le 6 février et il faisait un peu froid. Donc, milieu de la nuit. Le formulaire d'immigration, puisque tu en parles, je vais lire l'extrait, est une longue feuille de couleur beige, large de seulement quelques centimètres. Ça en dit tout de suite long sur la bureaucratie de ce pays. Nous n'avons pas d'hôtel. Un employé sympathique, aux cheveux orange, vêtu d'un costume occidental sombre, me propose l'un de ses contacts. J'insiste pour réserver l'hôtel de mon choix. Il ne discute pas et appelle. Les hommes autour de nous portent des couvertures sur les épaules, les femmes des lainages et de longs vêtements élégants. Tous s'empressent de rentrer chez eux. Et là, on prend le bus. C'est le moyen le moins cher pour aller à Delhi, évidemment. Mmh. Un froid vif se glisse par les fenêtres mal jointes du bus, que je colmate tant bien que mal avec un sac en plastique. Je discute avec les chauffeurs, leur indique l'adresse de notre hôtel. Le bus ne passe pas à proximité. Il faudra marcher dans la nuit, sans aucun plan de la ville.
Donc, New Delhi, vous allez passer quelques jours.
On a passé quelques jours et je te propose de lire un poème écrit le 9 février à Delhi.
Ouais.
L'éclairage public vient d'être coupé. Les habitants du quartier vont, portant des récipients d'inox, acheter le lait du jour. Au-dessus du sommeil de Delhi, un vide rougi par le levant. Au-dessous, le cataclysme des toitures, rafistolé de toiles, de tôles. Une petite fille, l'œil noir, porte à la main sa timbale de midi. S'approche, me regarde écrire, puis s'éloigne en souriant. Un mendiant, longiligne et sec, porte dans les cheveux les copeaux de bois qui ont bordé son sommeil.
New Delhi s'étire et se lève. Après Delhi, vous allez dans le Jaipur, vers les plaines du Rajasthan.
Tout à fait. En fait, on a fait... Bon, l'Inde est un pays immense, on y a passé 2 mois et demi. Mmh. On a fait essentiellement un circuit... on était toujours... Alors, d'abord, on était sac à dos, on a toujours voyagé par nos propres moyens. On a visité essentiellement le Rajasthan, jusqu'à Jaisalmer. Donc, il y a des passages sur Jaipur. Et Jaisalmer se trouve à la frontière avec l'actuel Pakistan.
Mmh. Où vous allez aller après, hein, c'est la fin de votre voyage, le Pakistan.
Oui, d'ailleurs. On a fait une boucle. En fait, la boucle a été bouclée à Lahore, Islamabad, qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Et
donc là, vous vous en approchez juste, en fait.
On s'en approche par le désert du Thar. Alors, pourquoi nous sommes allés là ? Parce que c'était la route caravanière. Mm-hmm. Pas la principale, puisque c'était les routes maritimes qui étaient les plus importantes en Inde, avec les villes portuaires, hein, comme notamment Bombay. Cette route dans le désert était quand même une voie importante et on a, pendant 3 jours, sillonné le désert
à dos de chameau. Oui, voilà. Parce que du coup, vous avez quand même expérimenté beaucoup.
Il y a un côté un peu touristique parce que c'est un raid qui est assez commun. Mais on a pu avoir des émotions assez intenses qui sont racontées dans le livre. On campait en pleine nuit, il faisait un froid glacial. Et à un moment, il y a des gens qui arrivent avec des haches sur l'épaule et qui s'adressent à nos guides, qui leur disent qu'il faut absolument partir, l'endroit est hanté. Alors nos guides paniquaient.
Il y a des fantômes,
il a fallu lever le camp. Enfin, c'était assez amusant, mais des anecdotes comme ça.
Oui, parce que vous avez vraiment utilisé tous les moyens de locomotion, possible, hein, finalement, le chameau, vélo, les voitures, les bus, les trains, l'avion,
les pieds,
quand vous passiez d'un grand pays à un autre, les pieds, tout à fait. Pas les skis, non, vous n'êtes pas allé skier sur l'Everest.
Non, je réfléchis. on a fait des raquettes, parfois.
Ah, oui.
On a beaucoup skié au Japon, mais pas dans ce
voyage.
Pas
l'occasion de ce voyage.
Mm-hmm. Alors, l'expérience dans le désert était intéressante. On a même à un moment, j'ai essayé de monter mon propre... En fait, je voulais partir sur 200 km et je me suis heurté à la bureaucratie administrative indienne. J'ai essayé de monter un circuit pour relier la ville de Jaisalmer jusqu'à Barmer.
Ouais.
Ça aurait été vraiment très, très intéressant. comme
circuit que tu voulais faire à d'autres chameaux.
Non, je voulais faire à d'autres chameaux, mais comme la région est sous conflit potentiel avec des avions militaires qui passent en permanence, j'ai quand même préféré demander des autorisations administratives pour éviter de se faire se retrouver dans une geôle au bout de quelques jours. Et j'ai jamais pu obtenir ces autorisations. Mais ça reste une belle expérience. Je peux te lire un passage.
Oui.
Donc, sur les traces des caravanes, une expédition de 3 jours dans le désert du Thar peut réserver des surprises, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Aube du désert, autour de nous, dans le sable, 3 selles, des sacs, des récipients vides. Des corbeaux viennent prolonger les bosses des chameaux, tête noire, ventre roux. Ils se régalent du riz laissé dans l'écuelle. En selle, les chameaux se lèvent d'un mouvement sec. Nous dodelinons 2 mètres au-dessus du sol. Désert du Thar. Nous sommes le 18 février 1995. Malgré le soleil naissant, la laine sur les épaules, les vents ne croisent aucun obstacle, traversent les mailles et dessèchent la gorge. Nous avançons sur un sentier de caravaniers, solitude d'une terre brûlée d'imaginaire. Au loin des pylônes, obélisques modernes, les pétarades à peine audibles des feux militaires, par-dessus nos têtes, un chapelet d'avions de guerre. Les chameliers n'ont plus l'exclusivité du sable. On le traverse plus vite qu'à dos de quadrupèdes. Torpeur, musique céleste, les vents font tournoyer les buissons secs. Des traces s'effacent au sommet de la dune. Les yeux couverts, le front caché sous un turban. Nous regardons notre ombre s'allonger.
On y est, dans le désert du Thar. Régis, tu sais, je regarde l'heure. Il est 16h47. On a à peine parcouru le premier quart du voyage. Alors, est-ce que... on ne va pas avoir le temps, je pense, de passer tous les pays en lecture. Du coup, est-ce que... Parce qu'après l'Inde, on part...
Au Népal.
Au Népal. Et au Tibet, ouais.
Mongolie.
Est-ce que tu veux bien qu'on poursuive sur le Népal, en fait, parce qu'il y a une étape... qui a aussi été assez puissante, je pense, pour vous.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'Inde, eh bien, ça sera pour une lecture de l'ouvrage « La Badiane à la soie ». Si nos auditeurs veulent le découvrir, c'est vrai qu'on est allé aussi à Bénarès, qui est d'une intensité forte. Il y a des passages écrits par Florence sur Bénarès qui sont très beaux. On est allé dans des endroits magiques comme le parc des oiseaux, à Bharatpur, on y a passé quasiment 10 jours. On a vu des grues de Sibérie, il ne restait plus que 3 spécimens dans la région. Et on a fini par quitter l'Inde au mois de mars, tellement la chaleur était devenue insupportable. On a écourté notre séjour pour partir vers le Népal, où, après un passage dans les parcs du sud, où on a eu la surprise de rencontrer des tigres, des rhinocéros et des éléphants, on est rapidement allé dans les montagnes, qui était notre projet de voyage. On a passé 2 mois et demi à marcher des centaines de kilomètres au Népal. D'abord dans l'Annapurna, où un ami que je salue, Hubert, m'a rejoint, qui était mon témoin de mariage, m'a rejoint pour 15 jours au Népal. Et ensuite, nous sommes allés dans le massif de l'Everest pour monter le mont Gokyo, qui est un sommet de 5000 et quelques mètres à proximité de l'Everest.
Donc vous aviez l'Everest en face de vous.
Hein, oh, exactement, on était face à l'Everest. À l'Everest, j'ai pas voulu aller au camp de base de l'Everest, qui était extrêmement pollué à l'époque par beaucoup de tourisme. Et on était dans cet endroit très sauvage, magnifique. Donc on a marché pendant des semaines au Népal, sans porteur. On a fait le choix de ne pas prendre de porteur. On avait, alors j'ai pas évoqué les bagages, mais...
Ah oui, vous étiez
on était très
chargés. Kilos sur le dos.
J'ai eu souvent 25 kilos de bagages sur le dos. Alors là, au Népal, j'avais un peu allégé, mais j'avais plus de 12 kilos. Et c'était assez éprouvant après 2 mois en Inde, où le régime alimentaire a été parfois compliqué. On arrivait, on n'est pas assez affaibli physiquement.
Mmh. Et puis après, les problèmes d'altitude ont un petit peu ralenti parfois.
Oui, alors on a eu beaucoup de soucis avec l'altitude, notamment Florence qui n'arrivait pas à passer les paliers. Mmh. On a fait énormément d'allers-retours pour passer la barre des 4000 mètres. Mais ça a été un moment extraordinaire, des passages incroyables. Beaucoup de poésie dans les hauteurs. C'est vraiment un des temps forts. Hein.
J'ai Est-ce d'ailleurs que tu veux titré... lire un extrait voilà, de cette partie-là?
Oui, volontiers. Népal. Le titre du Népal, c'est Vertige, sur les sentiers de l'Himalaya. Mm-hmm. Et vraiment, c'était vertigineux. Il y a des passages où on traversait des ponts. C'était vaguement des câbles tendus au-dessus du vide, avec quelques bouts de planches. Et c'était assez... Florence a écrit des passages où elle était absolument... effrayée, mais parfois moins que certains ou certaines tibétaines. Alors je vais lire un poème.
Quoi,
je cherche une page. Alors là, je vais passer celui-ci. Elle est directement dans le massif de l'Everest. Mm-hmm. Donc là, nous sommes au-dessus de 3000 mètres d'altitude et on marche depuis des jours. Il n'y a quasiment pas de... Enfin, il n'y a pas d'auberge. On dort dans des petites huttes à peine aménagées. Et là, on arrive dans une maison. C'est le 21 avril 1995, dans le village de Fakding. Nuit dans les courants d'air. Notre chambre à l'étage donne sur la rivière. Faite de planches disjointes, elle nous a tout de suite mis dans le bain. Un vrai royaume des courants d'air. En bas, dans la salle à manger, un poêle bricolé dans un large bidon donne une chaleur à peine perceptible. Dehors, il ne fait pas réellement froid, 4 ou 5 degrés peut-être, 10 au plus dans la pièce. Nous nous réchauffons de thé et de soupe. Maison Sherpa. Silence mécanique de la cuisine, rythmé par la pendule et les plaintes du feu. Combien d'heures passées dans cette immobilité ? Plancher grossier, plafond où l'on voit, dans les dessins du bois, mille formes de légende. L'attention et la vie concentrées près du foyer. Silencieuse la montagne, d'un silence fait de bruit, d'eau, d'air et de vent. Le printemps à son comble jette des poignées d'épis, couvre les fruitiers de fleurs familières. Merisiers, poiriers, pruniers. En contrebas la rivière, grosse des pluies, limpide flot sur lit de granit, vibre de ce vert qui anime les cours d'eau de montagne. Au-dessus, les falaises blanches, peuplées de pics, de coulées, étirent leur grâce étrange à 7000 mètres d'altitude.
Ah, merci Henri. Est-ce que, parce qu'après le Népal, vous allez au Tibet, Tibet hors note, Tibet, le titre de ce chapitre. Départ de Katmandou vers Lhasa. Ensuite, est-ce que tu veux partager un passage de cette étape au Tibet?
Oui, alors le Tibet, pourquoi ce titre? En fait, j'ai beaucoup voyagé dans le Tibet oriental, qui est aujourd'hui une province chinoise, et qui était fermée aux étrangers quand j'avais 20 ans. J'ai même eu quelques difficultés avec la police locale. Et pourquoi hors du Tibet? Parce que c'était très difficile d'aller au Tibet en 95. Mmh. En individuel, c'était impossible. Et on a dû rejoindre un groupe organisé. On était une dizaine de personnes. Et pour moi, c'était un peu contraire à mon orthodoxie du voyage. Mais bon, on a rejoint un groupe le mieux qu'on a pu. Ça nous a permis de faire la route. C'était quasiment 6 jours de minibus à travers des paysages extraordinaires. C'était vraiment fabuleux. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce périple. C'était fantastique. Et on est parti de Katmandou jusqu'au Tibet. Pendant 5 jours, de la piste, les hauts plateaux, des visions extrêmement fascinantes, notamment en termes de minéralité et de coloris. Donc je peux proposer éventuellement de lire un passage.
Vas-y.
Route vers le col de la Lung. Les paysages se succèdent, monde minéral, ocre et doré, réel ou hallucination. Nous gagnons les hauts plateaux, tons nouveaux, couleurs inconnues, une ondulation de collines, s'étirent, noyées dans les nuages. Les flaques de neige fondues imitent la violence bleue du ciel. D'autres boueuses et floues, nées d'une averse de grêle, se couvrent de rides sous le vent. Râpées par l'érosion et les éboulis, les collines offrent de rares falaises, opposant leur front à l'infini du paysage.
Merci Henri. Il est 16h56. On va bientôt devoir rendre l'antenne. Donc, après le Tibet, vous partez en Chine, puis dans les colonies de Macao et Hong Kong. Ensuite, la Mongolie par le train. La route de la soie en terre ouïghour, le Pakistan. On ne va pas avoir le temps d'écouter la suite du parcours à travers tes récits et tes poèmes, parce qu'il faut rendre l'antenne. Ce livre, La route, la banane et la soie, carnet de voyage, où est-ce qu'on peut le trouver, Henri?
Alors, vous pouvez le trouver à Marseille, à la librairie L'Île aux Mots, actuellement, parce que je vais faire prochainement une lecture. Il n'est pas encore lancé officiellement, commercialement. Il le sera en janvier. C'est un livre que j'ai édité moi-même. Donc, vous pouvez me contacter par message privé. Il est au prix de 29,90 €, ce qui couvre, on va dire, tout juste le coût de création. Et il sera sans doute dans des librairies également, prochainement.
Bon, donc pour le trouver avant Noël, là, il faut te contacter directement.
Oui, ou la librairie, ceux qui sont sur Marseille, la librairie L'Île aux Mots.
Qui est située dans le quartier de la Joliette. Et sinon, tu as une page Facebook, Henri Perrier-Gustin, où là, on peut te contacter via Messenger.
Tout à fait.
Échange avec toi.
Mon blog également, Henri Perrier-Gustin.
HenriPerrierGustin.com. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette émission. Je suis désolée, Henri, de te presser un peu à la fin, mais là, c'est l'heure.
Donc, c'est bien normal, il n'y a pas de souci.
Que c'était Poésie in the City sur Radio Galère 88.4 FM. Donc, vous pourrez bientôt réécouter cette émission sur le site internet de la radio. Et moi, je vous donne rendez-vous en février parce que je vais faire une pause en janvier. Début janvier, c'est un peu trop tôt. Donc, rendez-vous le premier vendredi de février, 7 février 2025, de 16h à 17h pour la prochaine édition de Poésie in the City. Merci Henri,
merci,
à très
Julie,
bientôt.
Merci beaucoup à toi et merci aux auditeurs qui ont eu la gentillesse ou qui auront la gentillesse de nous écouter.